Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, en direct et en public du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris, le club du vendredi qui accueille nos invités qui tenteront de répondre à cette question. Manger bon, sain et durable, coûte-t-il forcément plus cher? Nous recevons ce matin le chef d'entreprise Serge Papin et le journaliste Laurent Guez. Notre chef Grégory Cohen vous proposera trois recettes à partager ce week-end. Et avec nous évidemment Guillemette Audicino, bonjour.
Bonjour Ali.
Pas d'amis du vendredi cette semaine, mais on profitera de votre grain de sel avisé sur notre thème du jour.
Hein. Bah oui, parce qu'il faut dire en fait que je suis en vacances normalement, mais le salon de l'agriculture c'est irrésistible, donc je suis venu quand même.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali Rébé.
En l'absence de notre camarade Thibaut de Saint-Maurice, quel est le thème de la chronique philo du vendredi?
Eh bien, puisque nous sommes au salon de l'agriculture, nous parlerons d'une philosophie du goût.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui ne supporte pas que je la vous voie pendant l'émission, une chronique sexe assez cochonne ce matin.
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis très scolaire, donc on va rester dans la thématique du salon. Je suis passée voir les portes tout à l'heure, elles sont magnifiques. Je suis tombée amoureuse trois fois, donc on va parler de cochonnerie.
À tout à l'heure, Maya. N'hésitez pas à réagir dans le public, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Gourmand vous fasse. Est-il encore possible de manger bon, sain, durable, alors que les prix des matières premières agricoles montent en flèche avec la situation internationale? Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Notre chef chéri qui nous proposera une recette à partager ce week-end. Petit avant-goût.
Ah oui, alors en fait c'est pas trois recettes, mais c'est une recette avec une déclinaison de trois carottes, en tout cas de trois cuissons de carottes différentes.
Bonjour Laurent Guez.
Bonjour Ali.
Directeur éditorial du groupe, éditorial food, du groupe Les Échos Le Parisien, food en bon français, mon cher Laurent. Vous évoquerez tout à l'heure un papier disponible sur le site du Parisien, alimentation saine et durable, 5 idées reçues battues en brèche. Hein.
Oui, 5 idées reçues où il y a du vrai et il y a du faux.
Bonjour Serge Papin.
Bonjour Ali.
Vous avez dirigé le groupement coopératif Système U entre 2005 et 2018 et vous êtes le co-auteur avec Perico Légaz du panier à l'assiette publié chez Solar. Alors on va essayer évidemment de répondre à cette question du jour. Manger bon, sain et durable coûte-t-il forcément plus cher? Un point d'abord d'actualité. Avec la guerre en Ukraine, les prix de nombreuses matières premières agricoles flambent. Dans le même temps, les produits alimentaires à marque vont augmenter de 3% en 2022 après les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs pour fixer les tarifs des marques nationales. Des négociations qui sont le fruit de la très complexe loi EGalim 2, censée apporter un revenu décent aux agriculteurs. Une loi que je me garderai bien d'expliquer ce matin en détail. Serge Papin, la loi EGalim nous permet d'accéder à notre souveraineté alimentaire?
C'est la première marche. Alors, pour faire très court et très simple, EGalim 2, c'est la non-négociabilité des matières premières agricoles qui composent un produit en fonction, bien sûr, de coût de production. Donc, c'est un gros changement. Ça va permettre enfin aux agriculteurs de ne plus être la variable d'ajustement de cette guerre des prix et enfin qu'ils puissent avoir une rémunération de leur travail. Parce qu'autrement, s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus d'agriculture. Et quand on parle de souveraineté, c'est en effet l'enjeu. On voit bien que l'exception est une espèce de constante entre les crises climatiques, pandémiques dont on n'est pas vraiment sorti, crise géopolitique aujourd'hui. Il y a un enjeu de souveraineté. Il faut que la France soit capable de produire toute son alimentation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous prenez par exemple le marché des légumineuses, les protéines végétales, que ça soit pour la nourriture animale, ça vient du Brésil, que ça soit autrement, ça vient du Canada, des États-Unis. Donc il faut qu'on repense l'agriculture à partir de sa diversité et avec l'enjeu de la souveraineté. Et ça devient stratégique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On parle que de souveraineté pour un certain nombre de sujets et l'alimentation, c'est au cœur de la vie. Donc là, c'est un signe qui nous est donné de reprendre en main notre avenir pour nous nourrir mieux, peut-être parfois un peu moins aussi, parce que il y a des moments où il y avait dans certains cas trop de profusion et ça invite, ce qui se passe, invite nos concitoyens, peut-être, à consommer différemment, à se dire comment on peut conjuguer, c'est le thème de votre émission Ali, comment on peut conjuguer nutrition de qualité, santé, respect de l'environnement, respect des filières agricoles, Et c'est tout cet enjeu-là qui va être intéressant de porter à l'aune, malheureusement, de crise, mais qui nous invite à changer.
Grégory Cohen.
Oui, oui, l'enjeu, il est en fait, sur le bien manger, il est à deux niveaux. Il est au niveau sociétal pour la valorisation de la filière agricole. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite là dans les années à venir et que il faut motiver et rendre cette filière sexy pour qu'il y ait des jeunes qui viennent et qui s'y intéressent. 40% de la population française, fin de la Seconde Guerre mondiale, était agriculteur ou vivait d'une exploitation agricole. On est descendu énormément. Donc il y a un enjeu sociétal qui est très important, c'est-à-dire payer le prix juste, décent et même un peu plus parce que tout le monde a le droit de vivre et de bien vivre. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et puis il est environnemental sur plein de problématiques. Alors environnemental sur plein de problématiques, c'est-à-dire qu'on va importer énormément de tourteaux, c'est-à-dire de pain, de conglomérats qu'on va donner à manger aux animaux. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de pâturage en France, en tout cas de moins en moins. Il y a même une aberration qui dit que on a opposé énormément les protéines animales aux protéines végétales. Je trouve que ça aussi c'est une hérésie absolue, c'est-à-dire de dire absolument qu'il faut arrêter de manger de la viande pour manger beaucoup plus de légumes, et donc d'opposer ces deux mondes, c'est quelque chose d'assez dingue. Et on est même allé jusqu'à faire une étude qui disait que les bœufs élevés en hors-sol polluaient moins, c'est-à-dire émettaient moins de carbone que les bœufs qui étaient dans des pâturages. C'est-à-dire que c'est une hérésie totale. Alors qu'il faudrait mieux revenir à un bon sens. Vous savez, on parle du bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'est j'ai une terre, je change mes plantations de façon périodique, je mets ma terre en repos pour qu'elle se régénère, et puis j'utilise une partie de ma terre pour les pâturages. Je suis dans un cercle qui est parfait. On est dans la logique, du coup, de la souveraineté. Il y a eu un rapport qui a été remis le 2 février, il me semble, auquel j'ai participé avec un autre chef, avec Guillaume Gomez, porté par Rungis, Stéphane Layani et encadré par Jacques Attali. On a remis ça, c'est le rapport Agoralim sur la souveraineté nationale et régionale.
Laurent Guez.
J'ajouterais et européenne. Il me semble qu'on est obligé de raisonner aussi en souveraineté européenne parce qu'on va avoir du mal à être totalement souverain, aussi bien sur les sujets dont on parle ce matin, alimentaire, que sur des sujets plus sensibles encore, que sont les médicaments, en étant strictement à l'échelle régionale ou nationale. Mais je partage ce que veut dire Julien à quelques...
Alors moi, c'est Grégory. Si vous partagez ce que je viens de dire, essayez de partager mon nom aussi.
Pardon, Grégory. Je partage à quelques nuances près, parce que quand même, faire la différence entre protéines animales et végétales au salon de l'agriculture, si on ne fait pas la différence entre les deux, c'est qu'on a...
Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans une des lois Egalim, on est en train de promouvoir et de pousser un changement dans les écoles qui oblige une fois par semaine à enlever les protéines animales pour mettre exclusivement de la protéine végétale.
Alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que je trouve cette guerre qui nous saisit tous, qui nous stupéfie. Elle est terrible pour nos sujets, puisque on est à la fois privé de l'Ukraine comme fournisseur et comme marché d'exportation, et on est aussi privé, et on le souhaite, de la Russie qu'on boycotte. Donc dans les deux sens, on en est privé. C'est un moment qui va être compliqué, parce que ça nous met dans une tension entre les soucis qui étaient émergents d'avoir une alimentation durable, et c'est notre thème ce matin, et le thème qui est plus ancien, qui est d'avoir déjà de l'alimentation. Et dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, on était focalisé sur avoir de l'alimentation pour tous, et on s'en fichait complètement de l'aspect écologique, durable de cette alimentation. On a inventé l'agriculture intensive. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va pas oublier, on va pas perdre de vue nos préoccupations, mais il va y avoir une tension entre les deux. Et je trouve ça très intéressant et un petit peu inquiétant.
Serge Papin, se nourrir coûte de plus en plus cher. Se nourrir avec des produits alimentaires de qualité va coûter encore plus cher dans les semaines, les mois qui viennent.
Alors, je dis ça avec beaucoup de précaution. Si on change son rapport à l'alimentation, si on achète des produits de saison à la saison, si on achète des produits peu transformés, voire des produits bruts, alors ça présuppose qu'il faille passer à la cuisine. On a des produits de qualité, je le dis encore une fois avec beaucoup de précautions, mais qui sont accessibles. Si vous prenez un porc de qualité fermière, aujourd'hui c'est aux environs de 7 euros le kilo de qualité fermière. Hein. Si vous en prenez 200 grammes, ça fait 2 fois 7, 14, 1,40 € une portion de viande à laquelle on peut associer un légume de saison qui vaut pas plus de 2 euros le kilo aujourd'hui. Si on prend par exemple des butternuts, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une portion de qualité pour la nutrition récoltée en France à la saison qui paye aussi convenablement les agriculteurs. Évidemment, si vous allez sur des produits transformés, si vous achetez des produits issus du marketing et qu'on communique, qu'on voit tous les jours en communication à la télé, bon, eh bien ça coûte cher parce qu'en plus il y a des emballages, il y a du plastique, il y a de la logistique importante derrière. Donc ça veut dire qu'il faut profiter, ce que je disais tout à l'heure, de ce moment pour se dire, au fond, est-ce que on doit pas porter un autre regard sur notre alimentation et revenir à des choses plus simples et plus saines.
Grégory Cohen.
Ben c'est essentiel en fait ce que Serge dit et c'est exactement ça. En réalité, vous savez mon engagement autour du changement de l'alimentation dans les milieux hospitaliers. On a fait ce test grandeur nature à l'hôpital Saint-Louis. On a transformé l'alimentation. On a servi plus de 50 000 repas. Le prix d'un plat principal à l'hôpital, c'est 1,40 €. C'est le plat principal, le coût du plat principal. Et en réalité, on a changé ça en mettant des recettes où on transformait les plats, les ingrédients. Donc en gros, on cuisinait réellement. Et on est monté à 1,42 €. Sauf que 1,40 €, 80% du repas n'est pas consommé, c'est-à-dire qu'il y a un gaspillage alimentaire qui est colossal. Et 1,42 €, 75% du repas est consommé. Donc en réalité, est-ce que on se dit qu'il vaut mieux payer un tout petit peu plus cher, et franchement c'est marginal, mais avoir réellement des personnes qui mangent, ou alors se dire non, l'idée c'est de dire est-ce que vous êtes capable de produire pour 1000 personnes à 1,40 €, oui, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils mangent pas, c'est pas notre problème. Donc la réalité elle est aussi là-dessus, c'est de se dire on va sur des produits transformés qui coûtent pas tellement plus cher rapportés à la quantité et qui sont consommés, donc on fait un bénéfice des deux côtés.
Et vous pouvez intervenir dans le public du Salon de l'agriculture. Alors Serge Papin, je m'adresse à l'ancien président du groupement Système U. À l'origine, la grande distribution a été inventée dans les années 60 pour les populations les plus pauvres. Au fil des décennies, la guerre des prix a été une catastrophe, comme le rappelle Perico Legaz dans votre livre. Ce sont les populations pauvres qui se nourrissent le plus de produits ultra transformés, de malbouffe. D'ailleurs, la carte de l'obésité et du surpoids se superpose sur celle des revenus annuels les plus bas. Je cite Perico Legaz, « Ce sont eux qui mangent toute l'année un saumon infâme élevé dans des conditions ignobles au nom de prix toujours plus bas. La grande distribution a réduit ses clients à l'état de consommateurs barbares, prêts à se jeter sur la moindre promotion sans se demander ce qu'ils mettent dans leur assiette. » Serge Papin.
C'est, écoutez, les choses évoluent. Je pense que justement, à la fois, ceux qui mettent en marché sont conscients qu'ils ont des responsabilités, donc ils font plus n'importe quoi, et puis nos concitoyens associent maintenant ce qu'ils mangent avec leur santé, avec l'impact que ça a sur l'environnement, sur l'agriculture. D'une certaine manière, on peut voter aussi avec son caddie. C'est un acte citoyen, la façon dont on achète les choses. Et de plus en plus, enfin, moi, quand j'ai repris, vous le disiez tout à l'heure, la présidence du Système U en 2005, je me suis fait sortir une liste de substances dites controversées.
Voire 90.
90, on m'a donné cette liste. C'est un ingénieur agro qui m'a donné ça. Et dès 2005, je me suis engagé à débarrasser les produits que nous mettions en marché, alors plutôt les produits à la marque U, de les débarrasser de ces substances. Donc on a enlevé les phtalates, le bisphénol, la dioxine de titane, le parabène, etc. Donc c'était un gros engagement. Et je crois que ça porte ses fruits parce qu'on a anticipé des choses. Et maintenant, tout le monde est sur cette idée de consommer mieux. Et à la fois ceux qui mettent en marché, puis surtout, alors ce qui change la donne, c'est que on va dire les consommateurs sont demandeurs de consommer mieux. Donc, ils ont cette exigence. Donc, c'est ce qui fait bouger les lignes aussi.
Alors, notre question ce matin, c'est manger bon, sain et durable coûte-t-il forcément plus cher? Mais parmi les aliments les moins chers, on retrouve les produits ultra transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés, assaisonnés d'une impressionnante liste d'additifs, avec trop peu de fibres, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, une alimentation néfaste pour notre santé, selon des études convergentes, hein, obésité, diabète de type 2, maladie du foie gras. La grande distribution est en partie responsable de la propagation de la malbouffe depuis un demi-siècle. Mais pour vous, Serge Papin, les consommateurs sont également responsables.
Oui, enfin, on est responsable.
Je vous cite. À qui la faute si le consommateur préfère acheter une pâte à tarte toute prête ou une soupe en brique plutôt que de faire sa propre pâte ou sa propre soupe?
On a un rôle d'information, on a un rôle de pédagogie à avoir. Je pense qu'il faut dire aux gens que ce qu'ils mangent va avoir un impact important sur leur santé. Moi, dans mon rapport qui a fait la loi Egalim 2, la neuvième, ça n'a pas été repris, mais la neuvième recommandation, c'était de faire en sorte que la nutrition soit dans les écoles en primaire, pour qu'on ait cette pédagogie dès l'enfance. Et qu'il y ait cette sensibilité sur le lien alimentation et santé, et qu'on sorte en effet de ces maladies dites de civilisation pudiquement, qui sont liées directement à la malbouffe. Trop de sucre, trop de gras, et ces maladies sont graves, hein. Il suffit de s'intéresser allons discuter avec les médecins à Gustave Roussy, ce que j'ai fait. Et ils vous diront que la façon dont vous mangez, c'est la façon dont vous pouvez vivre beaucoup plus longtemps. Donc cette conscience-là, maintenant, une grande partie des consommateurs l'ont.
Guillemette Odissino.
Mais évidemment que, enfin, on a l'impression que les consommateurs sont responsables d'une certaine manière, mais cette malbouffe, elle va aussi avec, c'est aussi le temps. Les gens souvent sont pressés. Les gens qui ont besoin de travailler beaucoup pour souvent gagner peu ont un emploi du temps qui peut-être ne leur permet pas, en fait, justement, d'acheter des produits frais, de les transformer, de cuisiner. Enfin, donc, il y a quand même un problème aussi dans la vie des gens. Elle est réglée aussi par ça.
Je sais, je connais cet argument et je le reçois. En même temps, si on en fait une priorité, parce que quand vous regardez aujourd'hui le temps disponible sur Netflix, sur un tas de choses...
Sur les écrans.
Sur les écrans, etc. Oui, alors je...
Bah, les mères de famille, elles ne regardent pas Netflix.
Non.
Quand elles n'ont pas le temps de faire dîner.
Mère pour cuisiner. j'avais cette phrase un peu comme ça qui dit il faudrait inviter les gens à téléphoner moins et à manger mieux. Mais évidemment, il faut passer un tout petit peu de temps. Ça peut ne pas être long, c'est une question d'organisation, mais on nous a tellement appris depuis 20-30 ans que le prêt-à-manger, fallait l'acheter, y compris au supermarché, c'était plus simple, etc. Bah, on a sacrifié aussi là toute une partie à la fois de la relation avec l'alimentation, donc avec la terre, hein, et avec la production, avec toute cette sensibilisation et donc il faut peut-être revenir,
Grégory Cohen,
à des pratiques de ce point de vue-là. Et
je pense qu'il y a deux sujets. Guillemette, t'as complètement raison. On a notre société a énormément évolué. On est passé au moment où il y a eu ce côté de performance absolue dans le travail. Si on réussissait dans le travail, on réussissait dans la vie, et c'était un succès qui était établi. Et comme on travaillait, du coup, on avait moins de temps effectivement pour se nourrir, pour nourrir sa famille, pour se nourrir correctement. Ça, c'était il y a quelques années. On est encore un petit peu sur ce reliquat. Maintenant, on a pris une conscience différente, qui est la conscience de l'environnement, qui est la conscience de la santé. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les produits transformés dans leur globalité avec certains produits transformés. Et ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quand on va
en tant que consommateur dans un hyper, dans un super, et qu'on achète un pâté de campagne, l'intitulé pâté de campagne dit normalement ce qu'on devrait avoir, un pâté de campagne. En réalité, la problématique, elle est que ce pâté de campagne, c'est pas forcément
la campagne.
Un pâté de campagne. On va peut-être rajouter une tonne d'eau, du sel, du bambou, du soja, des stabilisateurs, des exhausteurs de goût, quelque chose qui ne correspond à rien. Donc, heureusement, il y a des labels qualité. Vous avez fait une émission à Lille, il n'y a pas longtemps, sur le Nutri-Score aussi.
Lundi, ouais.
Très importante, qui était géniale, cette émission, et qui nous donne aussi des indicateurs. Il y a des labels comme Bleu Blanc Cœur, qui est juste en face, qui nous permettent aussi de savoir comment ça a été produit et quel impact ça va avoir. Donc, il
ne
faut pas tout jeter. Il y a des applications qui fonctionnent. Il faut quand même réussir à se dire, oui, parfois, on n'a pas le temps, et on ne va pas culpabiliser pour ça, mais il faut qu'on achète des produits transformés de bonne qualité.
Mmh. Laurent Gaze.
Oui, j'adore ce que dit Grégory. Moi, je pense que ce qu'on fait là, c'est bon. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie. En revanche, je pense que accuser, culpabiliser, tout à l'heure vous avez dit à Ali que ceux qui mangeaient des saumons d'élevage bourrés de pesticides, etc., étaient des barbares.
Non, moi, c'est pas moi, c'est Perico Légaz, l'auteur de
Serge. C'est pas moi.
Vous avez cité Ali, je sais bien, c'est pas votre genre. Non, non, mais je pense qu'il faut pas accuser les gens. Il faut pas non plus être condescendant avec ceux qui se battent au centime parce qu'il y a une promo sur le Nutella que leurs enfants leur demandent. Moi, je suis radicalement contre la façon de se moquer de ces gens-là.
Je suis d'accord avec vous.
Je suis radicalement pour ce qu'on fait là, donner des éléments d'information, nuancer les propos, donner envie de cuisiner, parce que c'est vrai que c'est la clé de tout, puisque si on veut pas manger transformé, il faut transformer soi-même. La pédagogie, ça prend du temps et c'est ça la clé, c'est pas de culpabiliser ceux qui seraient nos ennemis.
Qui veut intervenir dans le public? Des questions? Bon, mais on se retrouve dans un instant, on verra. Ah si, monsieur, allez-y. Allez-y, monsieur. Allez-y, présentez-vous.
Vous me donnez un petit espace.
Un petit espace de 30 secondes, allez-y. Vous m'avez donné une affiche avec... c'est un documentaire, c'est ça?
Oui.
Alors, expliquez-nous en quelques mots, allez-y.
Alors, je suis président d'une toute petite association en Corrèze, à Tragnac. Et depuis 10 ans, nous sommes solidaires avec la petite paysannerie des Andes boliviennes, où nous mettons en œuvre le concept du buen vivir. Je ne vais pas m'attarder, mais pour rebondir sur l'émission, nous travaillons aussi donc sur la santé. Et le mot d'ordre, c'est, avec les petits paysans, prenez en charge votre santé. Et quand on fait une animation avec les paysans, on les fait réfléchir sur pourquoi vous tombez malade. Et que faut-il faire pour être en bonne santé? Que votre alimentation soit votre médecine. Petite anecdote, pour montrer l'évolution. Quand je suis invité donc chez un paysan, devinez ce qu'il m'offre. Du Coca-Cola. Donc, pour terminer...
On ne fréquente pas les mêmes paysans, parce que moi, ils m'offrent généralement un petit calva. Alors, je suis en Normandie, hein, mais...
Donc, jeudi 10 mars...
À Paris.
À Paris.
À l'Épée de Bois.
À l'Épée de Bois.
Un donc, documentaire qui s'appelle « D'un monde à l'autre », c'est ça?
C'est ça.
Avec la petite paysannerie quechua des Andes boliviennes. Merci, monsieur, d'être intervenu en direct du Salon de l'Agriculture.
Merci à vous.
Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Julia Macarès avec l'aide d'Alice Galtier. La réalisation a été signée Théo Raison, la programmation musicale Valentine Chedebois. Et dans un instant, on verra si cuisiner maison coûte vraiment moins cher que de consommer des plats ultra transformés. J'ai un peu la réponse. Hein. Et en attendant, à 10h28, on écoute Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit. Elvis Presley interprété Hound Dog.
Grand bien vous fasse. Ali Rebi. Sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter, en direct, en public. Et une question, manger bon, sain et durable, coûte-t-il forcément plus cher? Avec Serge Papin, ancien patron du groupement Système U, et avec le journaliste du Parisien Les Échos, Laurent Guèze. Alors, manger sain et manger bio sont souvent associés, même s'il existe de l'alimentation ultra transformée bio. Le problème, c'est que le prix des produits bio serait en moyenne 75% plus élevé que le prix des produits issus de l'agriculture conventionnelle, hein, selon une étude réalisée en 2020 par le magazine professionnel Linéaire. Et il faut noter que les consommateurs ont acheté moins de bio en 2021 pour des raisons essentiellement liées à leur pouvoir d'achat, Serge Pépin.
Oui, alors, écoutez, l'agriculture conventionnelle aujourd'hui a beaucoup évolué. Il existe une troisième voie, qui est celle, par exemple, du sans résidu de pesticides dans l'assiette. Il y a des engagements qui sont pris sur ces produits-là, donc qui sont des produits très accessibles, moins chers que le bio. Et l'utilisation des pesticides, qui sont quand même l'inconvénient majeur, hein, est aujourd'hui beaucoup plus pertinente qu'elle a été. Je vais vous prendre un exemple sur les pommes. Quand on y avait sur le traitement des pommes il y a quelque temps, c'était 24 passages. Là maintenant, ouais, maintenant on est à 2 ou 3 et sans résidus constatés au moment où on mange la pomme. Donc c'est ça qui est important. Donc on voit bien qu'il y a une évolution qui permet d'associer à la fois accessibilité au niveau du prix et qualité.
Guillemette Audicino.
Ah bah, c'est une très 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 bonne nouvelle. Et en plus, alors je vais faire un peu mon mauvais esprit. De temps en temps aussi, quand on achète une pomme bio, elle est moche. Non, mais enfin, je veux dire, elle est pas forcément. Parce que en plus du prix, qui de temps en temps est effectivement un petit peu paralysant, les produits bio souvent sont un peu décevants. Moi, je pense souvent à certains fruits qu'on achète tout content qu'ils soient bio. Et en fait, ils sont pas si mûrs que ça, ils sont pas si jolis, ils sont pas si... Et en fait, donc il y a presque quelque chose qui va à l'encontre du côté. Parce que c'est aussi, c'est idiot, mais c'est aussi bien de manger beau. Ouais. Le beau est quand même aussi associé au sain, enfin, vous voyez, ouais. dans l'état d'esprit des gens. Donc, si on pouvait, bah, un peu quand même, si un fruit moche, même s'il est sain, c'est quand même moins excitant.
Monsieur, devant moi, vous réagissez.
Moi, je peux dire que quand j'achète des pommes, j'achète surtout pas des pommes bien luisantes, bien rouges.
Non, mais c'est pas ça ce que
j'achète. J'achète des pommes qui sont moches et je vais sur le marché de Tulle. Je vais sur le marché de Tulle. Je m'adresse à un producteur bio et ces pommes sont délicieuses.
D'accord, monsieur.
Mais non, mais je pense que c'est parce que c'est le. C'est
non,
le...
je pensais pas aux pommes cirées.
Voilà, c'est l'héritage de Blanche-Neige, en fait. Tu sais, c'est la pomme qui est tellement belle. Mais attention, regarde comment elle finit. C'est pas génial. Serge a complètement raison. D'abord, je voudrais saluer l'agriculture française parce que c'est une de celles qui utilise le moins de pesticides en Europe. Donc déjà, ça c'est un premier point et c'est super important. Il y a effectivement de moins en moins d'utilisation de pesticides. Il y a aussi les légumes ou les fruits non traités post-récolte. Ça, c'est important aussi parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que parfois on rajoute aussi quelque chose après la récolte pour le faire durer plus longtemps, etc. Donc, il y a le non traité. L'agriculture bio en France, elle est très bonne. Elle est en train de changer aussi parce qu'elle est passée d'une petite agriculture de niche à une agriculture qui commence à devenir beaucoup plus grosse, qui fait que les prix naturellement de l'agriculture bio en France vont baisser. Et après, le label bio, il est assez large puisqu'il est mondial. Et du coup, on se retrouve avec des déséquilibres. Il est européen. Mais tu peux avoir aussi des produits. Vous pouvez avoir aussi des produits bio venus de pays très lointains et ils n'ont pas les mêmes normes bio que ce qu'on a en France ou en Europe.
Et il y a des fois, on passe, je citerai pas l'application, mais que tout le monde devine, là. On passe certains produits bio sur l'application, avec le code barre, et on s'aperçoit qu'en fait, dans ce produit bio, là, je parle pas d'une pomme, évidemment, qui n'a pas de code barre, mais certains produits à peine transformés qu'on passe au code barre, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si bon que ça. Alors, enfin, il y a quand même des surprises aussi.
Le local, à mon avis, le local doit, peut-être, non pas primer, mais on doit privilégier le local. Je pense que la proximité de production est aussi intéressante. Vaut mieux avoir un produit local, naturel, on va dire, même s'il n'a pas le bio, que des produits importés avec le label organique.
Il faut aller au marché, quoi.
Oui, il faut aller au marché.
Alors, je vais juste prendre un exemple sur des boulettes à l'agneau. Boulettes à l'agneau et pas boulettes d'agneau. Généralement, une boulette d'agneau, c'est 90%, 95% de matière protéine animale. Et là, une boulette à l'agneau bio, elle va avoir à peine 16% de protéines animales. L'origine, elle va être établie et dite puisque c'est obligatoire, mais on va avoir Union européenne et autres, suggérant que ça vient en tout cas de la terre, mais d'où on ne sait pas. Et ensuite, on va avoir du bambou bio, du soja bio, de l'eau bio, et ça va nous faire une boulette à l'agneau et pas une boulette d'agneau bio. Ce qui ne veut pas dire grand-chose.
Alors, on retrouve du bio pas cher en grande distribution. La grande distribution, c'est 55% de la part de marché du bio. Il s'agit souvent de bio-industriel, pas toujours raccord sur le plan environnemental et social. Du bio importé souvent de très loin, vous l'avez dit, Grégory. 30% du bio est importé, hein, selon l'agence bio. Quelles sont les alternatives quand on souhaite manger bio et pas cher, Serge Papin?
Écoutez,
en dehors des circuits de la grande distribution.
D'abord, acheter des produits transformés bio, je trouve que ça n'a pas de sens. Ouais. Par contre, si vous pouvez trouver des produits bruts, donc des produits non transformés, dans un certain nombre de magasins de la grande distribution, mais aussi chez des spécialistes, mais aussi sur le marché, je le cite souvent parce que je les aime bien. Biocop par exemple fait un bon travail de ce point de vue là où ils sont associés même à la production, où ils vendent, c'est-à-dire ils sont partie prenante avec les producteurs. Je trouve que c'est bien, donc ils ont une notion complète de la filière avec un vrai partage de la valeur, donc on peut trouver une accessibilité et on peut peut-être accepter de payer un tout petit peu plus cher à condition d'en manger moins, parce qu'on sait aussi qu'on se fait du bien avec ça.
Laurent Guez.
Le bio c'est beaucoup plus cher et pourtant c'est
forcément beaucoup, ça dépend de quoi.
Clair Serge, mais c'est beaucoup plus cher et c'est subventionné, c'est ça que je voulais dire.
Non, attendez, de quoi on parle? Un œuf bio, combien il vaut plus cher qu'un œuf conventionnel? On parle de quelques centimes. Ça change pas.
Oui, mais c'est... Mais laissez-moi juste dire ce que j'avais en tête, qui n'était pas pour dire qu'il fallait pas acheter bio. C'était pour dire que ce surcoût du bio, et qui est encore minoré parce qu'il est un petit peu aidé, il est lié au travail supplémentaire que demande cette culture sans intrants. Et ce travail-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une voie, vous qui êtes écouté un peu par les pouvoirs publics, Serge, de réfléchir à une baisse du coût du travail pour les agriculteurs qui travaillent bien, parce que pour se retirer des pesticides, il faut plus de temps humain pour soigner ces cultures, que ce soit de l'élevage ou des cultures.
Oui, bah, de toute façon, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire tous les besoins de main-d'œuvre dans l'agriculture, parce que ça c'est un gros problème, c'est qu'ils ont ils n'arrivent plus à trouver de salariés. Hein. J'étais avec le patron de Sodial hier, ici, sur le salon.
Sodial,
c'est Yoplait.
Sodial, c'est Yoplait, Candia, etc. Et c'est le président, il est agriculteur. Il n'arrive plus à trouver de salariés pour sa ferme. Et donc, c'est un sujet. Il faudra bien qu'on trouve à la fois qu'on donne envie à des gens ou à des jeunes d'aller vers ces métiers-là, qu'ils soient agriculteurs ou salariés agricoles. Il faudra mieux les rémunérer, ce qui veut dire qu'on observe sans doute la problématique des charges. Je suis d'accord.
Monsieur dans le public.
je pense qu'une des solutions, face à notre société qui depuis 100 ans nous a concentrés donc, dans les villes et a fait disparaître les jardins potagers. Ah. Aujourd'hui, il faut promouvoir le jardin potager, et notamment donc dans les écoles avec les enfants. Et dans ma Corrèze, il y a une association qui, avec les enfants de l'école, sont en train donc de promouvoir le jardin potager. Ça, je pense que c'est important d'éduquer les enfants à travailler son jardin potager et bien sûr donc d'avoir des produits sains. Et c'est bon pour la santé à tout point de vue.
Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Serge Papin.
Oui, c'est sûr. Alors, moi qui suis d'une zone rurale vendéenne,
tout le monde a son jardin. La difficulté, c'est plus en ville, dans les zones urbaines, mais dans les écoquartiers maintenant, qui sont en construction ou en rénovation, on peut avoir des jardins même sur le toit, donc ça, pourquoi pas aller, parce que c'est un élément de qualité de vie très important, et puis en effet ça rend des services aussi.
Alors notre question ce matin, c'est manger bon, sain et durable, coûte-t-il forcément plus cher? Durable, c'est quoi exactement? Laurent Guez, vous consacrez un papier sur le site du Parisien ce matin. L'alimentation durable, pour l'ADEME, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne.
C'est ça, donc c'est une notion qui est compliquée.
De façon moins compliquée, ouais, peut-être, Laurent Guez.
Bah, l'alimentation durable, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est évidemment produire assez et à un coût suffisamment accessible en préservant la planète et donc l'alimentation du futur. Mais c'est aussi, nous dit la FAO, qui est l'organisation au sein des Nations Unies qui s'occupe d'alimentation, la FAO nous dit qu'il faut aussi qu'il y ait une acceptabilité culturelle des types d'alimentation qui sont proposés. Donc c'est une notion qui est très riche et qui est très intéressante et qui n'est pas que l'écologie.
Alors vous battez en brèche cinq idées reçues autour de l'alimentation durable. Vous en choisissez une peut-être ?
Ben, on l'a évoqué tout à l'heure, manger local, c'est bon pour l'environnement.
Alors
ça a l'air de tomber sous le sens, mais c'est un peu plus subtil que ça. Comme presque toujours nos sujets sur l'alimentation, ils sont plus compliqués que prévu.
Expliquez-nous.
Bien, en fait, le transport, c'est seulement 20% du coût d'un produit. Donc évidemment, si on peut avoir des pommes près de chez soi, c'est 1000 fois mieux que d'aller les importer. Mais lorsqu'on mange des pommes en ce moment, qui ont été récoltées il y a plusieurs mois en France et qui ont été mises au réfrigérateur depuis leur récolte, eh bien parfois, le bilan carbone de cette pomme corrézienne, par exemple, peut, et je ne dis pas, je ne prends pas parti là-dessus, c'est juste un fait, peut être supérieur à une pomme cultivée au Chili et transportée par bateau.
Alors que recommandez-vous à ceux qui veulent manger sain, bon, durable et pas cher, hein, la quadrature du cercle quand on dispose d'un budget limité, Serge Papin?
Local, c'est local, favoriser les circuits courts, acheter localement et ça permet de tout réconcilier. C'est la règle pour l'avenir, c'est la proximité, c'est le local, ce qui veut bien dire aussi que l'agriculture doit aussi se relocaliser.
Grégory Cohen.
Oui, alors local, oui. Après, il y a des grosses Paris, par exemple, c'est assez compliqué. Alors, on a maintenant en Île-de-France un énorme terroir.
Il n'y a pas de Paris dans la ville.
Non, mais c'est une grosse population.
Il y a une bonne ceinture verte autour de Paris.
Voilà, c'est ce que je disais. En fait, il y a surtout en Île-de-France maintenant un terroir assez d'exception. Je pense qu'il faut aussi mélanger et réapprendre à varier nos repas. Des pommes
cuisiner,
de terre, ça coûte pas cher. Cuisiner, mélanger un hachis parmentier, les restes de la viande, réapprendre à retravailler le produit.
Et monsieur parlait d'avoir un potager. Alors même si on ne peut pas avoir un potager, au moins apprendre des recettes à ses enfants dès qu'ils sont tout petits. C'est-à-dire leur apprendre à faire la blanquette de mamie, le truc, le machin, parce qu'ils seront bien obligés du coup d'acheter des produits et de ne pas consommer déjà préparé.
Allez, il est 10h44, l'heure de retrouver la chronique philo de Julien Bisson.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne.
J'arrive. Alors, Julien Bisson, à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris, qu'est-ce qu'avoir bon goût? C'est votre question ce matin.
Oui, puisque nous sommes ici dans le temple du goût, et je ne doute pas que d'un stand à l'autre, du petit salé aux lentilles du puits, au miel de Lorraine d'Acacia, chacun des produits qui nous est présenté a bon goût. Mais est-ce que nous-mêmes, autour de cette table, nous avons bon goût? Alors, je ne pose pas la question à Grégory Cohen, qui serait capable de nous inventer une recette anthropophage. Je ne pose pas non plus la question à Maya Mazorette.
Non. Faut pas.
Je fais référence à l'autre sens du mot goût, c'est-à-dire à la faculté à discerner les beautés et les défauts des objets et des œuvres qui nous entourent. Bref, à passer du goût gastronomique au goût esthétique. Est-ce qu'ils sont comparables, ces deux goûts? Du côté de la gastronomie, on perçoit bien qu'il est impossible d'imposer son goût à un autre. Je peux essayer de vous convaincre tant que je le peux avec les meilleurs arguments. Je ne pourrais pas vous faire aimer le tripou, les huîtres ou la noix de coco séchée. Mais est-ce qu'il en est de même du point de vue esthétique? C'est ce que laisse penser David Hume, le philosophe empiriste écossais du XVIIIe siècle. Dans son essai De la norme du goût, celui-ci explique que la beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple et chaque esprit perçoit une beauté différente. Alors que dans le domaine des opinions, une seule peut être juste et vraie, la difficulté étant de réussir à la déterminer, cela s'avère impossible du côté des sentiments, où chacun ne reflète que la relation entre l'objet et l'esprit qui se le représente. Rien n'est intrinsèquement beau ou laid, tout dépend de votre subjectivité, et définir un goût universel relèverait alors d'une quête stérile.
Mais alors, mon cher Julien, si tous les goûts sont dans la nature, comme le veut l'expression, pourquoi dit-on de quelqu'un qu'il a bon goût ou mauvais goût ?
Bien parce que la définition du beau peut relever d'un jugement collectif. Kant, déjà, distinguait le jugement subjectif et la beauté objective. Ce n'est pas parce qu'une chose vous plaît qu'elle est belle, elle ne peut être belle que si elle plaît de façon quasi-objective à un très grand nombre de subjectivités. Avoir du goût, ce serait alors tout simplement savoir reconnaître la beauté universelle lorsqu'elle se présente, sans la confondre avec l'utile ou le bien. Mais on peut se poser la question, est-ce que nous sommes capables de tels jugements désintéressés, abstraits de tout contexte social ? Est-ce que nous pouvons apprécier la beauté d'un livre, d'une toile, d'une chanson, sans en référer au goût des autres ? Plus près de nous, Pierre Bourdieu s'est attaqué à cette prétendue universalité du goût. Dans son essai La Distinction, sous-titré Critique sociale du jugement, le sociologue estime que la définition du beau est d'abord et avant tout conditionnée par les choix esthétiques de la classe dominante dictée au reste de la société. Avoir bon goût dans ce contexte revient donc à se conformer aux choix esthétiques de sa classe sociale, autrement résumé par cette formule de Bourdieu, les gens ont le goût de leur diplôme. Alors bien sûr, il est possible de s'éduquer au goût, d'apprendre les bases esthétiques de notre culture, mais tout comme savoir reconnaître un vin à l'aveugle ne dit rien de ses qualités gustatives, connaître les fondements théoriques d'une œuvre ne signifie pas que nous l'apprécierons. L'important en réalité ne serait pas tant d'avoir bon goût que d'avoir du goût, c'est-à-dire pour l'œuvre de provoquer une réaction qui ne s'épuise pas, et pour nous de savoir y être réceptif, d'être attentif à la beauté lorsqu'elle apparaît.
La chronique philo de Julien Bisson a podcasté sur l'appli France Inter. Tiens, Sylvia nous réagit à nos propos il y a quelques minutes. Elle nous dit, qu'est-ce que c'est que ce tissu de mensonge ? La quantité de pesticides utilisés en France ne cesse d'augmenter. Vous ne pouvez pas laisser dire ça. Qui veut répondre ? Serge Papin ?
J'ai pas les chiffres. En tous les cas, ce que je sais, c'est que les engagements pris vont dans le sens de la diminution, parce qu'il suffit de balader sur les stands là, et on voit des engagements sans résidus de pesticides. Il y a des grandes marques aujourd'hui qui s'engagent là-dessus. Donc c'est une diminution quand même.
Grégory Cohen.
Non, complètement, je rejoins Serge là-dessus. Si on prend, ça sera toujours trop de toute façon pour certaines personnes, ça c'est une certitude. Si on prend la quantité de pesticides par rapport à l'ensemble de l'Europe, on est en dessous de ce qui est utilisé. On a un super ministre qui s'appelle Julien de Normandie, qui est un ingénieur des eaux et forêts, donc qui connaît le sujet, qui se met sur toutes ces problématiques-là et qui le fait avec beaucoup d'intérêt. C'est lui qui a fait vraiment avancer tous les sujets autour de l'alimentation.
Allez, après les nourritures intellectuelles, les nourritures terrestres avec notre chef Grégory Cohen. Alors, Grégory Cohen, quelles recettes partagerons-nous ce week-end ? Alors, variation autour de la carotte.
Ah, voilà, une déclinaison autour des carottes. Alors, il y a plein de carottes, il y a 400 variétés de carottes. Il y a des carottes rouges, jaunes, violettes, oranges, enfin blanches même. On a ce qu'on veut. Là, on va partir sur trois types de carottes différentes. On va faire une purée de carottes. Alors, pour cette purée de carottes, simplement, 1 kg de carottes, une échalote émincée, 25 g de beurre, 250 ml de crème liquide, 35%, 400 ml de bouillon de volaille, ou de bouillon de légumes si on veut quelque chose totalement végétarien, une pincée de sel, et puis des zestes d'une orange non traitée. On en a parlé tout à l'heure. Faire suer les échalotes dans le beurre. Lorsqu'elles deviennent translucides, on met les carottes, on couvre de bouillon de volaille, on met un papier sulfurisé par-dessus avec un petit trou pour laisser la vapeur légèrement s'échapper. Une fois que les carottes sont cuites, on ajoute la crème liquide, un petit peu de bouillon, on mixe, et on a notre purée de carottes. C'est aussi simple que ça, guillemette, et c'est pas si long que ça en réalité, parce que pendant qu'elle bout, on peut faire autre chose. Les carottes jaunes glacées caramélisées. Alors on va prendre 20 petites carottes jaunes avec les fans, 60 g de beurre, une cuillère à café rase de sucre roux, une pincée de sel et le jus de la même orange dont on a utilisé les zestes tout à l'heure. Hein. Alors on épluche et on lave les carottes, on raccourcit les fans de 3 cm, on range les carottes les unes à côté des autres dans une casserole, on met les morceaux de beurre, on couvre d'eau gazeuse. L'eau gazeuse, elle est...
Pourquoi ?
Parce qu'elle a du carbonate naturel, elle va permettre de conserver les couleurs, fixer la couleur de la carotte, et donc c'est parfait. On recouvre ensuite de papier sulfurisé, toujours avec la même petite cheminée, on porte à ébullition, puis on baisse le feu pour 25 minutes. Une fois qu'on a fait ça pendant 25 minutes, on retire le papier sulfurisé, on continue à laisser l'évaporation de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, on déglace avec le jus d'orange, ça va légèrement caraméliser les carottes et leur donner un petit goût sucré sympathique. Ensuite, pour les chips de carottes, on va prendre des carottes Deep Purple. J'aime bien, ça fait un peu rock. C'est les violettes. Ce sont les carottes violettes. Et on va conserver aussi les fans. Et alors, on va les couper finement en chips. Et puis, on va faire frire à 180 degrés jusqu'à une coloration. C'est assez rapide. En fait, dès qu'elles remontent, elles vont être cuites. On met aussi les fans dedans. Et puis après, on met la purée au milieu. On fait une boule avec les fans au milieu de la purée. On met les chips autour. Et puis, nos petites carottes glacées. Ce qui fait qu'on a différentes textures, différents goût, c'est simple à faire et c'est super bon.
Toutes ces recettes sont à retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off, avec deux F.
Oui, Off, avec deux F.
Voilà, exactement.
Ah, vous nous avez surpris là, normalement.
Non, parce que je voulais vous lire quand même, pour terminer, le message de Catherine qui nous écrit, hein, je la cite, « Je suis outré de ce que j'entends sur le bio, à vous écouter, cher, moche, c'est grave de mettre de telles idées dans la tête des gens, vous confondez le bio-industriel et le produit bio du paysan du coin ou les produits non transformés des magasins spécialisés qui sont bien loin de cette mauvaise caricature. » Mais c'est ce que vous avez dit, Serge Papin.
J'ai dit, exactement.
Allez, dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette, juste après M qui interprète Grandes Oreilles.
Avec mes grandes oreilles, au moins j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles de Maubeuge à Marseille. Tous y sont les merveilles et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil. Avec mes grandes oreilles, avec mes grandes oreilles. Souvent j'ai pas sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, j'essaye, pas besoin.
Interpréter Grandes Oreilles.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et nous sommes en direct en public du Salon de l'Agriculture. C'est l'heure de la chronique sexe de Maya Mazorette. Alors Maya, tu vas nous parler de cochon.
Tout à fait. Le sexe est-il une cochonnerie ? Est-il par essence cochon ? Eh bien, en France, manifestement oui, et c'est une exception culturelle. Quand le mouvement MeToo a éclaté il y a 5 ans, nous sommes le seul pays du monde à l'avoir baptisé « Balance ton porc ». Après l'art érotique français, voici le lard érotique. Et c'est vrai que du coq français au cochon français, finalement, il n'y avait qu'un pas. On aime bien se vautrer dans la fange, on se murmure des cochonneries, on vante les mérites de l'amour sale. Bref, on active et réactive en permanence tout un imaginaire du sexe comme pratique cochonnesque, fermière, paysanne, nourricière, mais également sale. Ce qui pose une question douloureuse, le sexe est-il plus sale en France qu'ailleurs ? Alors, je dis ça, je dis rien, mais si le doc de Fun Radio nous a répété pendant des années que non, c'est peut-être qu'on avait besoin de s'en convaincre. Et puis, dois-je vraiment mentionner la réputation désastreuse du French Lover en termes d'hygiène ? Non, je vais plutôt botter en touche. Qu'on soit de France ou du Pérou, nos organes génitaux sont à proximité des zones dédiées à l'évacuation des déchets. Nos fluides sexuels sont considérés comme des pollutions. Nos sexes sont des nids à bactéries susceptibles d'infections. Et la sexualité peut même se terminer avec un accouchement souvent décrit, ça ne s'invente pas, comme une boucherie. Bref, côté hygiène, en 2022, on n'est pas sorti de l'auberge ni de la ferme des animaux.
Et pourtant, on n'a pas toujours envie que ce soit ça, hein, Maya.
Mais oui, tant de plaisir, de partage, de découverte, à proximité de tant de cochonneries. Il y a là une tension qu'on essaye de résoudre et la question, c'est comment ? Avant, pour lutter contre le porc en nous, il fallait faire sa prière ou coucher dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, on honore un peu moins le dieu du confessionnal et un peu plus les dieux de l'argent. L'équation du moment est la suivante. Si le sexe fait vendre, le sexe propre fait encore plus vendre. Démonstration sur Amazon, une requête pour du nettoyant intime renvoie à 140 pages de résultats. Bah ouais,
140.
Apparemment, il nous faut ça. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Et chaque année, en fait, il y a des nouveaux entrants. J'ai notamment remarqué un bidet portable Easy Bidet 2.0, dont j'ai le regret de vous annoncer qu'il existe réellement. Il y a aussi les grands classiques, les poires à lavement, les brossettes anales, les produits de blanchiment intime et bien sûr, toutes les potions magiques qui transformeront vos pénis en robinets chromés hypoallergéniques et nos vagins, chers guillemets, en fleurs de lys ou yaourt à la rose, c'est des vrais produits. Au-delà de cette marchandisation de la honte qui tape sans pitié au porte-monnaie de nos vulnérabilités, c'est toute la sexualité qui plie devant l'impératif hygiénique. Le sexe devient l'occasion de perdre du poids, d'évacuer des toxines, de soulager des tensions, de muscler son périnée. Bref, coucher est carrément devenu une question de fitness. Et même quand on regarde des images pornographiques grand public, c'est pareil, on voit que des corps sans poils, sans trop de gras, sans failles, qui nous arrivent sans odeur. Et en plus, là, il y a le Covid qui arrivait par-dessus, en nous donnant la manie de passer nos amants au gel hydroalcoolique, et encore, quand on ose encore avoir des amants. Bref, tout se passe comme si notre soif d'hygiène n'avait plus de limite.
Et avec tous ces efforts, est-ce qu'on arrive à rendre le sexe moins cochon ?
Non, pas du tout, sinon ce serait trop simple. Non, la sexualité, c'est le royaume du double discours et des injonctions paradoxales. Quand le sexe est sale, on veut le nettoyer, mais quand il est propre, on veut le salir. Chasser le cochon, il revient au galop. Cette charge anti-hygiénique vient de tous les côtés. Les gynécos qui rappellent qu'un vagin est auto-nettoyant, les scientifiques qui s'inquiètent de la disparition des phéromones, etc., etc. Mais alors, comment il faudrait faire pour que le sexe soit à la fois propre et sale ? Parce que sinon, ça devient compliqué. Et bien en fait, pour faire tenir les contraires ensemble, notre culture a inventé un truc formidable, le système binaire de genre, avec les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. En fait, il n'y a qu'aux femmes qu'on demande d'être des oies blanches et les hommes restent des cochons. Vous savez ce qui est vraiment cochon dans notre sexualité ? C'est le sexisme.
Merci beaucoup, Maya Mazorette. Une chronique à podcaster sur l'appli France Inter. Et votre documentaire sur le désir féminin sera diffusé le 8 mars sur TMC à 21h15. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Merci aux équipes techniques et de production ici au Salon d'Agriculture. Merci au grand ordonnateur Alain Fauché. Merci à Dominique Allard, chargé de production. Merci aux techniciens Olivia Branger et Thomas Robin. Merci au Salon d'Agriculture. Vous retrouverez Mathieu Vidard à ce même micro à 14h. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, André Manoukian et Christophe André. Et lundi, dans Grand Main Vous Fasse, c'est une émission pour Grégory Cohen. Comment rester en bonne forme après 50 ans?